m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
De professeur, il n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel est le pouvoir de la mémoire au cinéma ? Comment témoigner de l'effort sincère d'Itzhak Rabin en 1994 en faveur d'une démarche de paix entre Israéliens et Palestiniens ? Quelle a été la violence de la campagne diffamatoire contre le Premier ministre israélien et son processus de paix avant son assassinat le 4 novembre 1995 ? Quels sont les rapports entre archives et fiction ? Comment représenter un événement historique au cinéma ? Ne cesse de s'interroger le réalisateur Amos Gitai, cinéaste engagé, pour lequel l'acte de filmer est un acte civil. Titulaire de la chaire annuelle de création artistique, Amos Gitai revient dans le cadre de sa série de cours « Traverser les frontières » sur son parcours personnel et son rapport à l'histoire, la sienne, mais aussi celle de son pays d'origine, Israël. Sa série s'achève aujourd'hui sur la chronique d'un assassinat. Le 4 novembre 1995, le Premier ministre israélien Itzhak Rabin, l'homme des accords d'Oslo, prix Nobel de la paix, est assassiné sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv, après un long discours contre la violence et pour la paix. Son assassin est un étudiant juif religieux d'extrême droite. Plus de 20 ans après, Amos Gitai nous propose de revenir sur cet événement traumatisant. À la fois au travers de son film « Le dernier jour d'Itzhak Rabin » sorti en décembre 2015 et au travers de son adaptation au théâtre au Palais des Papes en 2016 dans le cadre du Festival d'Avignon. Au magazine Le Point, Amos Gitai expliquait en 2016 justement « Quand Rabin a été assassiné le 4 novembre 1995, j'ai senti qu'une page de l'histoire israélienne moderne avait été tournée. J'ai toujours trouvé que cet endroit du monde est comme un volcan. » À l'échelle de la planète, ce n'est pas le conflit le plus important. Au cours des deux dernières années, il y a eu plus de morts en Syrie qu'en 100 ans de conflits israélo-palestiniens. Mais il y a une très grande force symbolique pour différentes raisons. D'abord, c'est vraiment une collision entre une société occidentalisée et l'Orient. Ce petit territoire est aussi le lieu de naissance des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ensemble, ces trois religions diffusent une imagerie très forte sur toute la planète, alors que la distance entre la mer et le Jourdain n'atteint même pas 100 km. Donc ce petit territoire a une très forte valeur symbolique. Le film d'Amos Gitai mêle reconstitution et images d'archives. Il s'agit de replacer l'assassinat dans son contexte politique et sociétal, quand l'adaptation au théâtre s'appuie, elle, sur le témoignage de l'épouse d'Itzhak Rabin. Il faut faire exister cette mémoire, expliquait encore Amos Gitai en 2016. Je sais que je touche une corde sensible de la société israélienne. Il y a quelques jours, au Festival de Jérusalem, le ministre de la Culture a accusé les artistes israéliens d'être le cheval de Troie de l'ennemi. Chez nous, comme chez vous, la circulation de la haine marche très bien pour être élue. C'est un phénomène mondial qu'on voit à l'œuvre aux États-Unis avec Donald Trump, en Europe, en Israël, au Moyen-Orient. Dans ce contexte, le problème de l'artiste, du cinéaste, de l'écrivain est de savoir quoi faire quand on vit près d'un volcan. Quelle forme artistique peut-on proposer ? Quelle est la bonne distance ? S'interroge Amos Gitai aujourd'hui. Alors comment le cinéaste se fait-il architecte de la mémoire ? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 11 décembre 2018 pour le cours d'Amos Gitai, aujourd'hui, chronique d'un assassinat.
Aujourd'hui, on va parler des projets que j'ai fait autour de l'assassinat d'Itzhak Rabin, qui était assassiné le 4 novembre 1995. Et un de mes amis, Uziel Yada, qui est prof en Israël, il m'a dit qu'effectivement, c'est bien que je creuse dans cette histoire, que c'est un méga événement dans les tailles du Moyen-Orient, à peu près comme l'histoire d'Henri IV dans le contexte français. qui mérite de parler de mémoire, parce que la mémoire, comme on a parlé souvent dans toute cette raconte, pour moi, la mémoire, c'est l'agent des changements. Parce que l'art, comme j'ai répété plusieurs fois, elle n'a pas de vrai pouvoir, elle a strictement des pouvoirs symboliques, mais il faut utiliser ce pouvoir symbolique. On n'a pas de vrai pouvoir. On ne gère pas la planète, mais d'une autre façon. Le grand peintre, je fais référence à Guernica, les grands écrivains, ils sont toujours travaillés à travers des mémoires. Et la mémoire, elle fait son chemin. Il faut garder l'espoir. Alors, avant de lancer celui-là, je me fais un grand plaisir que Hana Shigula est là parmi nous. Hana. Parce que comme je suis simplement un architecte, et petit par petit, j'ai appris mon métier d'être cinéaste, j'avais de très bons professeurs, et Hana Shigula était un de mes professeurs, avec Henri Alkan, avec les deux fils de Stockhausen, avec Pina Bausch, avec une très très longue liste. Et c'est toujours le raconte avec mes comédiens, Stéphane Thiebaud qui est là, qui a fait le mixage de mes films, Eric Gauthier qui a fait les dernières, Renato Berta, Nourit Aviv, une longue liste, et des acteurs et des actrices israéliens, palestiniens, allemands, français, italiens. Et je commence à comprendre comment je peux faire des films. Parce que Hana Shigula nous a fait le plaisir d'être présente aujourd'hui, et que notre raconte, c'est toujours par le hasard. Vous vous souvenez des textes d'André Breton sur le manifesto du surréalisme, que je vous conseille toujours, sur le hasard, l'élément de hasard dans l'acte de création. Alors le hasard était que Hana Shigula est venue avec Dora Petrova pour voir un de mes films dans une petite salle à Entrepôt, qui était Berlin-Jérusalem. Et à la fin de cette projection, on a dit que peut-être on a envie de travailler ensemble. On a fait plusieurs choses. On a fait un spectacle avec Samuel Fuller, Masha Itkina, Jerry Koenig, Gibellina et à Venise. Et on a fait des chapitres de Golem, et surtout Golem, l'esprit d'exil. Alors je vais vous montrer un extrait hommage à Hana Shigula qui est parmi nous. Alors, ce projet-là, comme j'ai expliqué la semaine dernière, l'idée, c'était de cette époque que je suis à Paris, parce qu'après les documentaires très politiques comme House et Journal du Campin, on a resté ici quelques années, et je cherche des histoires ou des textes qui arrivent de ma culture, et je cherche pour à la fois parler des pays où je suis, qui est à Paris, et parler des textes qui me parlent. C'est de grands textes d'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et c'est encore une époque profonde de mon apprentissage. Alors j'ai Hana Shigula, Vittorio Mezzagiorno, Bernardo Bertolucci, Philippe Garrel, Marceline Loridan, les deux danseurs de Pina Bausch, l'acteur de Peter Brook, un très bel groupe de gens qui j'ai appris beaucoup de choses d'eux. Alors, je vais vous montrer un petit extrait, parce qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui, d'une scène que j'ai fait avec Hana Shigula, Ofra Shemesh, Mireille Perrier et Fabien Dab, qui prennent ce texte-là. Et après, on va plonger dans l'histoire de Rabin.
En voulant repousser le jour du malheur ou rapprocher le règne de la violence, ils sont allongés sur les lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils délirent au son de l'harpe. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans les larges coupes. Ils se parfument à l'huile de prémisse. Quel profit a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Un âge s'en va, un autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche. Il aspire à ce lieu d'où il se lève. Le vent va vers le midi, il tourne vers le nord. Le vent tourne, tourne et s'en va. Et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont à la mer et la mer n'est pas pleine. Vers ce lieu où vont les torrents, là-bas ils s'en vont de nouveau. Toutes les paroles fatiguent, l'homme ne peut plus parler. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Aucun souvenir des temps anciens. Et quant aux suivants qui viendront, il ne restera d'eux aucune mémoire. Je vois toutes les oppressions que se font sous le soleil. Voici les larmes des opprimés, mais nul réconfort pour eux. La force est du côté des oppresseurs. Et moi, je félicite les morts qui sont déjà morts plutôt que les vivants qui sont encore en vie. Et encore mieux que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se font sous le soleil. Leur amour, leur haine, leur jalousie, ont péri. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc je déteste la vie, car je trouve mauvais ce qui se fait sous le soleil. Tout est vanité et poursuite devant.
Alors, c'est pour régler les dettes vis-à-vis Hannah. J'ai pris un grand plaisir de travailler avec elle. Et maintenant, on va changer le registre parce qu'on va parler des projets d'Yitzhak Rabin, de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et comme vous savez, Yitzhak Rabin était assassiné au 4 novembre 1995. Et je ne sais pas pourquoi, mais comme Arte, sur la direction de Jérôme Clément, ils m'ont lancé de faire un. D'abord, une soirée théma sur les négociations de Oslo. J'avais le grand intérêt, et comme j'ai expliqué dans un des leçons précédentes, et des fois, si on a des caméras ou une pièce de théâtre, et ça nous donne un prétexte d'apprendre quelque chose. Il faut avoir des prétextes, parce qu'on a envie de savoir quelque chose sur le monde. Alors, on est parti avec une toute petite équipe, on était 3 ou 4 personnes, pour filmer Rabin. J'étais allé avec Yitzhak Rabin dans son avion à Washington, au Caire, et je la vis d'une façon très sincère, dans laquelle il a essayé de surmonter ce conflit israélo-palestinien qui perturbe Israël, perturbe le rapport entre Israël et les Palestiniens, perturbe tout le Moyen-Orient, peut-être la planète, malgré que c'est, dans l'échelle mondiale, c'est pas énorme. Mais comme c'est un conflit très chargé par des mémoires et le destin des Juifs du XXe siècle et le destin des Palestiniens dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est un projet très, très chargé, très, très chargé. Et j'ai vu cet homme, sans admiration, sans un culte de personnalité, qui essayait d'une façon très sincère, il était quelqu'un intègre, qui a essayé de réconcilier cet conflit. Terrible. Très déterminé. Rabin, alors pour faire une petite note biographique, Rabin, il était né en 1922 dans le quartier juif de Jérusalem, dans les vieilles villes, qui normalement c'est l'endroit des juifs orthodoxes. Mais sa mère, Rosa, on l'appelait Rosa le Rouge, parce qu'elle était allée dans tous les manifs de 1er mai avec les drapeaux rouges. Alors Rabin était né là, déjà en contradiction. Et il a passé tous les stades de la guerre de 1948, de l'ouverture de l'axe pour Jérusalem, qui était siégé par les légions arabes. On a parlé l'autre jour vis-à-vis Kedma, que Lawrence d'Arabie, il a passé le célèbre citadelle qui contrôlait l'axe pour Jérusalem aux légions arabes. Jérusalem était siégé. Rabin était le commandant de cette opération. Après, il était chef d'état-major. Et c'est vraiment une histoire assez mythique parce que c'est lui qui commandait la guerre des six jours, la grande victoire militaire israélienne dans laquelle Israël a, dans six jours, occupé toutes les péninsules de Sinaï, les Golan et tous les Cisjordanie. Alors cet homme est réélu premier ministre exactement 70 ans plus tard, il est né à Vendée, il était réélu à 92, et là il décide d'une façon rationnelle que pour stabiliser l'existence israélienne dans cette région, d'aller sur le conflit le plus compliqué que l'Israël et les Palestiniens. C'est-à-dire Begin, il a fait l'accord avec l'Égypte, c'était plus simple, mais le conflit le plus chargé, c'est le conflit israélo-palestinien qu'il n'y a personne, ni avant ni après, a osé de toucher. Aussi, j'ai eu beaucoup de respect parce qu'il a, dans ses mémoires, qui étaient dirigées par Peretz Kedron, il a dit qu'en 1948, il a chassé les Palestiniens de leur maison à Lod et Ramleh. C'est-à-dire que pour faire la paix, il faut d'abord dire la vérité, il faut arrêter de raconter l'histoire, il faut qu'il y ait de confiance. Et ça, c'est le seul dirigeant israélien qui a testé noir sur blanc, qui a dit « j'étais soldat et j'ai participé dans cet acte militaire ». Avec cette honnêteté, il était respecté dans le monde arabe. Et là, les Palestiniens aussi ont signé un accord de Oslo qui est très menacé aujourd'hui. Et là, on peut chaque jour voir des menaces. Alors, moi, je trouvais que cette idée d'aller parler avec lui était adorable. Et on a parti ensemble. Et j'étais comme ça, comme un... quelqu'un qui témoigne cet effort en 1994. Alors, il y avait une sorte d'euphorie qu'on est en train d'avancer. C'était pas sûr qu'on va arriver à résoudre tout le problème, mais quand même, c'était un effort sincère. Mais un an plus tard, le 4 novembre 1995, après une longue campagne d'incitation, Rabin était assassiné. Alors, tout de suite après l'assassinat de Rabin, j'ai fait un film qui s'appelle « La reine des meurtres », qui est une sorte de film éclectique, dans lequel j'ai essayé de regarder comment un événement public d'histoire peut être transposé sur un film. C'est un film de sketch que j'ai discuté ou de fait d'échange avec des comédiens, aussi avec la femme de Rabin, que j'étais allé la voir. Et comme j'étais allé la voir, c'était une journée très particulière parce qu'on arrivait là-bas. Elle n'était pas encore à la maison, mais elle m'a appelé, elle m'a dit « tu peux monter chez nous ». Parce que Rabin, il habitait dans un appartement dans le nord de Tel Aviv. Et tous les voisins ont commencé à râler, il a dit encore à une équipe de télévision, parce que là on a eu Clinton, ils ont bloqué l'ascenseur, on ne peut pas descendre les poubelles, etc. Une scène de cette nature-là. Et on arrivait à la maison, il arrivait de retard, et c'était une journée très émotionnelle parce qu'ils ont amené tous les objets personnels de Rabin des résidences de Jérusalem, les chaussures de tennis, des petits objets comme ça. Et elle m'a parlé, et c'est une interview qu'on n'a pas le temps malheureusement de voir, mais vous pouvez podcaster parce que c'est de grand plaisir avec Collège de France que vous pouvez podcaster toutes les conférences qu'on fait, plus les films annexes sur leur site. Alors, la chronologie de mon travail, c'est 94, cette série pour Arte qui s'appelle « Give Peace a Chance ». Et 95, tout de suite après l'assassinat, 96, « La reine des meurtres ». Et après, une pause de 20 ans. Et d'ailleurs, pas très loin des choses que vous avez racontées dans les sciences qu'on a fait sur Kippour. Parce que Kippour, moi j'étais dans l'hélico de sauvetage battu par les missiles syriens. En 1973, octobre 73, mais le film Kippour était montré dans l'année 2000, c'est-à-dire 27 ans plus tard, c'est-à-dire la mémoire travaille. Il y a des choses qu'on peut faire d'une façon immédiate, il y a des choses qu'on attend. Et là, pour préparer le film de Rabin, qui est maintenant tout l'archive de Rabin, j'ai fait une donation à la Bibliothèque nationale à Paris. Il y a presque 30 000 documents qui ont servi pour écrire le projet d'assassinat de Rabin. Il y avait des documents vidéo. Alors, il y a d'abord cette matière brute, qui n'est pas mon travail, qui est l'événement historique, c'est-à-dire l'élément d'archives, les vidéos, le texte, l'affiche, les scènes dans lesquelles ils ont essayé de déstabiliser Rabin. Et tout ça, après, il faut distiller, on peut dire, ou sculpter, et de faire un projet de scénario et plus tard un projet de film. Alors, pour commencer notre travail sur ce projet, je vous montre, par exemple, un des vidéos qui montre la scène que, même pas un mois avant l'assassinat de Rabin, il y avait un énorme assemblement à Jérusalem, dirigé par l'actuel premier ministre d'Israël, qui essaie de déstabiliser le gouvernement. Et on va voir d'abord les documents, après plus tard les adaptations aux scènes filmées. Il faut aussi garder qu'est-ce qui était écrit sur le stage, le plateau où il y a l'actuel premier ministre, qu'il y a très grande, en hébreu et en anglais, le mot « death », mort.
אבל גם תומכי מפלגת העבודה ואנשים שהצביעו לרען יצחק רבין באנו לכאן להגיד בשם ציבור גדול עוד יותר שצופה בנו עכשיו באנו להגיד לך שלושה דברים אנחנו כאן כדי לשמור על ירושלים לשמור על הגליל לשמור על הנגב
עם ישראל העם העתיק והחזק הזה להתפקח מן האשרויות שמחרו לו, להתנער מן ההונאה הגללה, שניסו להוביל אותו לתוכם. כבר עכשיו הוא ברובו הגדול תומך בנו, במאמץ תושב של כולנו, להגיע בעזרת השם בבחירות הקרובות, להכרעה ברורה וחד משמעית לטובת המחנה הלאומי.
כי מה שאנחנו נאבקים למענו, הוא שלום אמת ולא שלום כוזב.
Bon, bien sûr que le premier ministre actuel, il a dit qu'il n'a pas écouté les cris, ni vu l'affiche qui était mise sur son plateforme. Et là, qu'est-ce que le cinéma ou le théâtre il peut faire? Il peut rappeler la mémoire. Alors, quelques semaines plus tard, Rabin était effectivement assassiné. Et nous, on a commencé avec une grande recherche. Avec Rivka, on était allé fouiller dans tous les archives dans les centres Rabin, dans lesquels il se trouve beaucoup d'affiches et de textes qu'il a dit que Rabin et Peres font partie des sectes sataniques. Et, c'est-à-dire, l'effort était assez concentré. On va voir avec le BNF, parce qu'il sort une sorte d'architecture volontaire, je ne sais pas s'ils ont tous été envie d'assassiner Rabin, mais déstabiliser son gouvernement d'une façon très concentrée. Et après, il y a tout ce travail de traduction. Il y avait même une femme qui est psychologue, elle a dit qu'il faut lui mettre un hôpital dans une île psychiatrique. Et alors, ils ont essayé de les déstabiliser. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils restaient assez déterminés. Et ça finit par l'assassinat. Et dans le sens presque shakespearien, on voit qui gère le pays aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un assassinat plutôt réussi. Alors, je reviens au exercice de cinéma, que, comme je vous avais dit dans les séances précédentes, chez moi, comme je suis simplement architecte, c'est un acte civil, c'est-à-dire comment le cinéma il peut parler du monde aujourd'hui, parce que c'est un médium très très fort, qui est un peu perdu, qui peut faire des choses trop formatées. Mais il faut refaire challenge à ce médium qui parle des jours d'aujourd'hui, que chaque fois il va créer une autre forme, une autre démarche, une autre procédure de représentation. Et cette question était le centre de ce travail. Alors, si on continue, alors on va aller dans les interviews. J'étais allé voir Shimon Peres, qui était le partenaire de Rabin dans les négociations de Oslo. C'est-à-dire, il y a une démarche d'archives, archives vidéo, d'archives papier. des interviews que j'ai fait avec beaucoup d'interlocuteurs autour. Et tout ce matériel, après, il est transmis aux comédiens pour inspirer, charger leur intellect, leur talent. Et on a eu 72 comédiens israéliens très doués qui font partie de ce projet. Et le plateau de cinéma, il devient une sorte de plateau d'études. Si je parle d'héritage de culture de où je viens, c'est une sorte de presque un plateau de discussion talmudiste, c'est-à-dire d'interpréter, d'opposer, de poser des questions, jusqu'à ce qu'on arrive d'articuler au terme cinématographique et de performance, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je parlais avec Shimon Peres, il y avait des conflits entre les deux hommes, mais ils ont quand même été tous les deux ensemble sur ce projet. Alors, on a le manif du premier ministre actuel, on a le témoignage de Shimon Peres et des autres, on a beaucoup de documents. Là, j'étais allé voir le président de la Cour suprême d'Israël, Meir Shamgar, qui était déjà plus que 90 ans. J'étais allé chez lui, à sa maison, à Tel Aviv. Et il m'a accueilli et il m'a dit... Alors, j'ai dit, écoute, votre honneur, vous avez fait un très mauvais travail. Alors, il m'a dit, mais Amos, pourquoi tu me dis ça? Je lui ai dit, parce que vous avez strictement interrogé l'agent de police, l'agent de services secrets qui ne sont pas protégés, Rabin, mais vous n'avez pas parlé d'énormes campagnes d'incitation, etc. Alors, il m'a dit, ce n'était pas notre mandat, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors je lui ai dit, je vais vous dire, vous pouvez ouvrir pour nous tous les protocoles de votre commission. C'est-à-dire tout le travail que votre commission d'enquête sur l'assassinat Rabin était en train de faire. Et il l'a fait. Et là, on est parti à Jérusalem. D'ailleurs, une chose qui maintenant n'est pas possible, parce que le gouvernement actuel bloquait l'archive nationale sur certains sujets, alors les chercheurs futurs, ils ne peuvent pas avoir un accès si facile. C'est pour ça qu'il y a toujours... aussi un timing, si on a un timing, qu'on peut faire quelque chose, il faut faire. Parce que l'histoire, il nous attend à personne. Et là, on était allé à Jérusalem, on a passé quelques jours pour en photocopier très rapidement tous les témoignages des gens qui étaient venus devant les commissions. Et tout ça est devenu une sorte de matière pour l'écriture que j'ai fait avec Marie-Josée Sanselme, de différentes versions de scénarios. On a traduit en français, on a travaillé. Et il faut aussi rendre hommage à Jean-Baptiste Dupont qui a coproduit le film à Paris et aussi à mes distributeurs israéliens Moshe et Léon Edry qui ont soutenu le projet. Alors, on a fait un grand travail de traduction et d'adaptation, c'est-à-dire ça, c'est les matières brutes, les témoignages, l'archive vidéo, les séries de pamphlets, toutes les minutes, les protocoles de commission, c'est devenu une matière brute dans laquelle il faut faire la procédure. Et d'ailleurs, je vous parle de ça parce que Florence m'a fait bien de répéter que l'année prochaine, le 6 et le 7 juin, si vous êtes disponible, on va faire 2 jours complets de séminaires ici, au Collège de France. Et on va parler d'archives aussi. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, notre devoir de cinéaste, c'est de commencer à transmettre la méthodologie à notre génération. C'est-à-dire, c'est bien de trop impressionner l'autre génération. Ils sont déjà trop impressionnés, pas seulement, bien sûr, de mon travail, mais par les autres. Alors, ils voient strictement le produit définitif. Mais il faut voir qu'il y a un trial and error, c'est-à-dire on fait un geste, ça marche pas toujours, on revient arrière, on regarde l'archive. C'est un processus, c'est pas qu'on a une idée depuis le départ très bien articulée, c'est-à-dire qu'il y a un travail de recherche, d'être inspiré par des textes littéraires, par des archives, etc. Et il faut ouvrir l'archive, et même... si quelqu'un veut voir, visiter l'archive, qu'il voit qu'il n'est pas d'accord, c'est légitime. C'est-à-dire qu'il peut poser la question. Il a dit, vous avez raté, vous avez dans l'archive une chose géniale. Pourquoi pas? C'est bien. Il pose des questions. Il faut poser des questions. Alors, Là, je vais vous montrer, et aussi le grand travail qu'a fait le monteur de film Yuval Or, un monteur israélien qui a monté avec Matsili aussi. Comme je vous avais dit, c'est toujours un travail d'équipe. C'est pas seulement moi que je suis là, mais c'est un travail d'équipe. Et si on arrive de bien inspirer, et mobiliser, et motiver notre équipe, on fait un bon travail. C'est pas nous tout seuls. Et lui, il a fait des liaisons entre l'image des archives, que je vais vous montrer extrait. Une image très rare qui était filmée par hasard de quelqu'un qui était sur un toit. Il a filmé les scènes d'assassinat, un vrai, qui était dans l'archive des chaînes publiques israéliennes, et qui est maintenant under liquidation. Alors, même dans le générique de film, juridiquement, j'écris IBA, under liquidation. Et la femme qui dirige cette archive, elle m'a dit, Amos, viens vite, parce qu'avant qu'on sera liquidé, vous pouvez prendre cette image-là. Et alors, comme ça, on a cette image. C'est aussi une histoire de timing. Alors, là, on va voir une scène qui commence par l'image d'archive, et après, il y a un très grand plan séquence qui était fait avec Eric Gauthier, directeur de photo, et Laurent Truchot, parce que moi, j'avais une idée fou. J'étais envie de filmer depuis la terrasse que cet homme a filmé l'assassinat avec une caméra, avec le plan séquence. On a parlé de plan séquence dans les séances précédentes. Et que les caméras sans couper, elles descendent de la terrasse, elles rentrent dans la voiture, elles partent avec la voiture. Alors, comme je raconte à mes équipes cette idée-là, elle a dit, Amos, est-ce que tu as mal dormi? Qu'est-ce que c'est cette idée? C'est facile à réfléchir, mais il faut résoudre. Le cinéma, il y a aussi un aspect technique. Comment la caméra peut descendre de la terrasse jusqu'à le niveau de la voiture, rentrer de la voiture et partir avec la voiture? Pas évident. Alors, Laurent, il était sur les grues. C'est lui qui filme au début. Après, les grues descendent. Et les caméras passent à la main de Laurent à Eric Gauthier, qui lui, il rentre dans la voiture et part avec la voiture. Mais même ça, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Alors, je vais vous montrer les transitions entre un plan d'archives et le plan de fiction.
Le Collège de France et France Culture vous présentent le réalisateur Amos Gitaï, aujourd'hui chronique d'un assassinat.
Thank you. מוזר שהקלטת הזאת שמישהו צילם את האירוע הנורא הזה בזמן אמת קצת אצלנו עכשיו.
הרוצח הצליח להישאר 40 דקות בלי שיראו אותו באזור שאמור היה להיות אזור סטרילי.
ניתן להסיק שלא הייתה כל התייחסות לעניין ההבטחה באזור החניון הצפוני.
On va pas aller au fond, mais c'est vrai que le travail qu'on a fait posait beaucoup de questions, c'est-à-dire la voiture de Rabin qui était située à peu près, grosso modo, 500 mètres de l'hôpital. Cela a pris 20 minutes à aller à l'hôpital. L'axe n'était pas libre. Il a perdu beaucoup de sang. Il n'y avait aucun travail de gens qui doivent lui protéger pour vraiment lui protéger. Et ça a laissé beaucoup de questions ouvertes qui ne sont pas encore... Peut-être si les gens travaillent bien sur l'archive, vous trouvez quelques réponses qu'on n'a pas eues dans l'époque. Et en plus que l'hôpital n'était pas alerté que le premier ministre doit venir, alors le chauffeur de la voiture, il était obligé d'apporter Rabin tout seul sur son dos pour faire entrer dans les salles d'urgence. Alors il y a toute cette question qui perturbe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que le premier ministre actuel, qui est un homme... qui arrive de manipuler pas mal de choses. Le seul jour qu'il est un peu angoissé, si on le regarde, c'est le jour dans lequel, par le protocole, il doit aller sur la tombe de Rabin et faire un speech. Et ça pose des questions aussi. Mais je vous laisse compléter certaines questions, parce que... Alors, il y avait cette annonce aussi par les cercles ultra-orthodoxes des choses qui s'appellent Pulsa de Noura. Et avec Marie-Josée, on a aussi travaillé sur l'aspect talmudiste de cette Pulsa de Noura. Qu'est-ce que ça dit? Les malédictions, c'est-à-dire ils ont utilisé l'aspect politique, le grand manif, d'essayer de déranger chaque fois qu'il est passé quelque part. Les Likoud étaient plutôt les Likoud de l'extrême droite bien organisé. Et il a trouvé des gens qui opposaient à son discours. Et là, on va voir une cérémonie de Pulsa de Noura, c'est une scène qu'on a écrite à partir de cette malédiction. Et on regarde.
Tadhema, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון, יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש, הערב בתל אביב. יהי זכרו ברוך.
זו ההודעה של איתן אבין. ראש הממשלה יצחק רבין נפטר. יותר מזה, יעקב, אני לא יכול לומר כרגע.
השעה עכשיו 11:15 דקות. ראש הממשלה יצחק רבין נפטר.
הוא נרצח בקרב על השלום. החייל הזה שעבר הרבה מלחמות נרצח בקרב על השלום. והוא לא הצליח.
Nine.
La question, c'est qu'on touche vraiment un air vivant. C'est-à-dire même, d'ailleurs, toute cette liste des rabbins, ils sont actifs. Ils font toujours cette démarche raciste. Et Noam Solberg était nommé comme un juge de la Cour suprême. Celui-là qui a jugé qu'il ne faut pas continuer le questionnement des rabbins. Et même dernièrement, il a dit qu'il faut détruire une école bédouine de Khan el-Ahmar, qui d'ailleurs elle a fait ce sujet dans mon film « À l'ouest de Jordan ». Alors là, on ne parle pas de Première Guerre mondiale avec des films et des grandes scènes de restauration, etc. On parle d'actuel. Le film, il parle d'aujourd'hui, même si l'assassinat de Rabin, elle était il y a 23 ans. Alors, comme je vous avais dit et je répète encore, c'est un acte civil de parler de mémoire de cet acte, c'est parce que j'aime ce pays, je trouve qu'il va mal, et il faut poser des questions, il faut rappeler des choses qui ont besoin d'être rappelées. Et le cinéma, c'est notre, mon médium de parler de ce questionnement. Aussi, il ne faut pas laisser le mot patriotique strictement à l'extrême droite. Rabin était un patriote israélien. Parce qu'il aime ce pays, il était envie de stabiliser son existence. Et il ne faut pas laisser des récupérations et des réécritures d'histoire. Alors, on a fait le film avant l'assassinat de Rabin, que malheureusement, je n'ai pas le temps de vous montrer l'interview, mais il y a des interviews très intéressantes avec Rabin lui-même. On a fait tout de suite après l'assassinat, on a fait les derniers jours d'Yitzhak Rabin, le film. Et on a fait aussi une pièce de théâtre qui était, la première était en 2016. C'est-à-dire le film était fait en 2015, montré à Venise et ailleurs. Et d'ailleurs, les premiers Israéliens étaient dans les plus grandes salles. Je demandais les plus grandes salles que la salle des Philharmonies de Tel Aviv, une très belle salle. 2500 personnes, Peres est venu, le président de la Cour suprême, c'est-à-dire tout ça dans les procédures d'un acte civil. C'est-à-dire, c'est pas une chose hardie, mais il faut que ça joue son petit rôle modeste dans le réel. Et je dois dire hommage à mon distributeur israélien qui partage mes opinions politiques, qui a fait tout le nécessaire pour que cette projection va avoir lieu dans les plus grandes salles d'Israël, dans les jours d'assassinat, le 5 novembre, exactement 20 ans après l'assassinat, en 2015, dans les jours d'assassinat, dans cette grande salle. Et pour moi, ça, c'est le jeu démocratique. On peut être pas d'accord, mais on ne fait pas de pression. Il faut que les questions, ils ont leur place pour poser les questions. Alors, je vais vous montrer un tout petit extrait de cette pièce de théâtre qui s'appelle « Chronique d'un assassinat ». Que le premier était au Festival d'Avignon, au Palais des Papes, qui après était à New York, au Lincoln Center, à Los Angeles. Et dernièrement, le 8 octobre, c'était à la salle de Philharmonie de Paris, avec Barbara Hendricks, qui a fait une très belle prestation de Chant de la Terre de Gustav Mahler, et de Kaddish de Maurice Ravel, des grandes actrices israéliennes, Sarah Adler et Yael Abekassis. D'ailleurs, Yael Abekassis, elle a fait avec moi Kadosh, et c'est elle qui était dans l'interview avec Shimon Peres, et on a fait un grand travail ensemble. Et là, dans les versions du Festival d'Avignon, c'est Sarah Adler, Yam Abbas, l'actrice palestinienne, qui sont tous les deux joués le rôle de la femme de Rabin. On va voir un tout petit extrait pour vous montrer que j'ai décidé de prendre cet événement d'assassinat de Rabin et j'ai fait alors des films de commentaires, des films de fiction, des pièces de théâtre et on a fait aussi des expos à la Fondation Lambert, aussi avec l'aide de Sébastien Moreau, aussi à musée de Maxi à Rome. C'est-à-dire qu'il faut que les démarches civiles, il prend son expression artistique sans être démagogique, mais voir quand même un point de vue. Pas être trop timide sur le point de vue. Alors, on va voir simplement pour vous faire un petit référence à ce travail théâtral, le début du Palais des Papes. Comme je fais des pièces de théâtre, j'aime bien dialoguer avec l'architecture, les choses que j'ai fait avec la Philharmonie de Paris. Et à Avignon, j'ai demandé d'un Palais des Papes de garder, par exemple, les lumières de cette mur de Palais des Papes, c'est-à-dire de pas faire une chose trop lisse, parce que je trouve qu'il y a trop de pièces de théâtre qui maintenant ils nous font de très belles images trop clean avec des écrans plats. Et moi j'aime bien que l'architecture, le vrai lieu existe, il a sa propre présence avec son signification. C'est pas une adaptation théâtrale de film, mais c'est plutôt la voix de la femme de Rabin, de Léa Rabin, qui raconte ce jour d'assassinat, joué par des actrices, avec Edna Stern qui a fait le piano, avec Sonia Vider-Atherton qui a le cello. Je demandais aussi le chœur d'être habillé normalement, comme des pop, disons. Et la configuration de stage est très minimaliste, en table, avec quelques chaises.
Si on lui avait demandé ce jour-là, ce samedi matin, s'il avait déjà songé à cette éventualité, il aurait dit non. Jamais. Il est parti confiant, l'esprit tranquille. Il n'aurait jamais accepté de porter un gilet pare-balles. Il n'avait aucune espèce d'inquiétude en ce qui concernait sa sécurité personnelle. Et je dois avouer que moi non plus. J'avais confiance en ses gardes du corps. La pensée ne m'avait pas effleuré qu'une telle chose puisse se produire, qu'une telle chose se produirait.
En revanche, ceux à qui j'en veux vraiment, et je ne cesse d'y penser, bien que cela me coûte, ce sont les maîtres à penser qui ont cultivé cette mauvaise herbe, qui ont prôné ce genre de choses, et les milieux politiques qui ont traité Yitzhak d'assassin pendant si longtemps, d'assassin et de traître. En l'accusant de ne pas savoir où il menait le peuple, ils ont induit certaines idées, une telle façon de voir les choses qu'un homme a pu considérer que puisque Rabin était un traître, qu'il bradait la terre d'Israël, et la terre d'Israël est plus sacrée que la vie de cet homme, c'était un devoir religieux de le tuer. Je n'arrive même pas à être en colère. Je ne ressens aucune colère. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas éprouver de colère. Seulement de la peine.
Ils ont commencé à hurler à la seconde où ils m'ont vu arriver devant notre immeuble.
C'était un vendredi après-midi. J'étais seule dans la voiture, sans garde du corps.
L'un d'eux criait. Après les prochaines élections, nous vous pendrons par les pieds sur la place, toi et ton mari, comme Mussolini et sa maîtresse. Voilà ce qu'on vous réserve. Tu ne perds rien pour attendre.
Je suis montée chez nous. Yitzhak n'était pas encore rentré.
Un ami a compté les manifestants un par un depuis la fenêtre. 47, 48, 49, bien sûr. À 50, il n'aurait pas pu manifester sans autorisation. Ces insultes, ces comparaisons avec les fascistes, nous les entendions presque chaque jour à cette époque, Yitzhak et moi, l'époque où le processus de paix semblait devoir l'emporter. Un mois plus tôt, il y avait eu une manifestation de la droite à Jérusalem. C'était le soir du vote d'Oslo II à la Knesset. Benjamin Netanyahu a prononcé un discours d'un haut d'un balcon, pendant que sur la place Tzion, des manifestants mettaient en pièce une caricature d'Yitzhak en uniforme nazi, sous l'œil des caméras de télévision. Ce vendredi-là, c'était le 3 novembre. Les manifestants ont hurlé, leur slogan urdurier, sous nos fenêtres jusqu'à 6 heures du soir. Ils sont partis un peu avant le retour d'Yitzhak. L'assassin était parmi eux. Je l'ai appris ensuite. Pourquoi les partisans du processus de paix ne sont-ils jamais venus manifester devant chez nous, ne serait-ce que pour affirmer leur présence? Pourquoi n'ont-ils pas proclamé leurs convictions, fait entendre leur voix aussi fort? Quand Yitzhak est rentré à la maison, il a ignoré les insultes, comme il l'avait fait tous les autres vendredis. Malgré son mouvement de colère, quand je lui rapportais les injures lancées contre nous, nous avons passé une soirée tranquille. Depuis quelques mois, on voyait se multiplier des affiches qui représentaient Yitzhak avec un kifia, comme Yasser Arafat. Elles en mettaient partout, dans tout le pays, au carrefour, au feu rouge. Il y avait toujours un petit groupe de gens qui criaient des injures, le traitaient de traître et d'assassin. Un jour, j'étais seule dans la voiture sans Yitzhak. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. Nous sommes sortis de la voiture et nous avons déchiré ensemble ces affiches ignobles.
Alors, comme c'était une actrice palestinienne, Yam Abbas, et une israélienne, j'ai beaucoup respecté le fait que la femme de Rabin est incarnée par les deux. C'est-à-dire, sans afficher cet statement, cette amitié entre les deux actrices, le fait que tous les participants sur stage, ils sont transmis les chagrins de la femme de Rabin. C'est une sorte de lamentation. Alors, il y avait le film, qui avec tout son travail de recherche, le documentaire, les lamentations, l'expo. Et c'est vraiment une sorte de projet dans lequel on prend cet événement historique et on transpose sur des formes variées. Mémoire. Alors, avant de terminer, je vous montre, comme d'habitude, les dernières séquences, c'est-à-dire qu'il y a on revient au film. Alors, je crois qu'on va peut-être zapper les choses que Rabin elle dit sur Gaza, malgré que c'est très intéressant. C'est une conférence de presse que j'ai filmée au Caire. Comme tout le monde parle actuellement de Gaza, Rabin, il montre sa vision de Gaza. Et c'est très opposé des choses qu'on voit aujourd'hui. Et même opposé à la conception d'Ariel Sharon, et qui est unilatérale. C'est-à-dire qu'Israël retraite et basta così, et après les Palestiniens font tout ce qu'ils veulent. Rabin, il est contre l'unilatéral, il dit qu'il faut faire un accord. Et d'ailleurs, je trouve que l'accord de paix, comme l'acte d'amour, ça ne peut pas être unilatéral, c'est-à-dire qu'il faut que l'autre existe. Alors, c'est un autre concept de rapport entre les gens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau, des salaires, il y a des êtres humains là-bas. Ce n'est pas strictement des objets militaires. Et là, malheureusement, on n'a pas un représentant de cette vision. Et de toute façon, comme on connaît que l'histoire est cyclique, on va payer cher. Alors, il faut qu'il y ait un dialogue qui est restauré, un moyen d'écouter aussi le problème de l'autre. Ce n'est pas obligatoire d'accepter tout automatiquement, mais il faut qu'il y ait ce dialogue et pas strictement le rapport de force. Là, on passe, on va vers un petit fragment que Rabin essaie de parler dans le Knesset quelques jours avant son assassinat.
רבותיי, בוודאי, בהחלט, בהחלט, בבקשה אדוני ראש ממשלה, אני, זה רצוי אפילו, לא, ובזה יסתיים, אדוני, זה ראש ממשלה והוא יאמר מה שהוא רוצה, סליחה.
אני לא מבקש מהבמה.
אל תפריע לראש הממשלה.
לא מבקש מהבמה, התופעות של הלטת יצרים. תחת הכותרת מניעת קרע בעם, התופעה של היום איננה חדשה. היא קיימת...
לא נפריע, גם לא הפרענו לחבר.
היא קיימת...
אל תפריעו אתם! סליחה, חבר הכנסת יעלום, אל תפריע לראש ממשלה, תראו מה שאתם עושים. אתם חוזרים על תסמונת שאחר כך מתפרצת החוצה. פה אתם לא נותנים לו לדבר. זאת התחלה.
זה לא
תנו
דבר.
תנו לו לדבר עכשיו.
זה לא דבר חדש.
תנו לו
לדבר
כמו שלי בנימין נתניהו נתן.
זה לא דבר חדש. תן לו לדבר. חוזר ואומר,
טיפת כבוד.
אין התופעה הזאת חדשה. היום היא לובשת צורה תחת השם אחדות העם, ותחת השם אחדות העם משתמשים בביטויים שרק מביאים לקרע, ואני ממליץ להפסיק עם הצביעות.
Bon, j'étais envie de vous montrer quelques aspects de ce grand projet. Et là, on arrive vers la fin, parce que la commission d'enquête dirigée par Meir Shamgar, elle a fait un travail plutôt administratif, disant quel policier elle a regardé à gauche et pas à droite. Mais à la fin, lui-même, Meir Shamgar, il dit quelque chose comme une sorte d'alarme pour la future. Et comme souvent dans les films, quand je vous avais montré la fin d'Esther, que j'ai fini toujours pour lier le présent avec le sujet du film, alors le dernier plan des derniers jours d'Yitzhak Rabin finit par le Tel Aviv d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas écrire l'histoire de l'avenir en avance, il ne faut pas être déterminé, les choses sont complexes, démarche de réconcilier ce conflit, il est compliqué. C'est pas une division entre les gens angéliques et des salauds, parce qu'il y a les deux dans les deux côtés. Peut-être dans chaque fois dans proportion un peu différente. Mais il faut quand même continuer la démarche de chercher une solution, une réconciliation de ce conflit.
C'était les cours du Collège de France où venez d'écouter Amos Gitaï dans le cadre de sa série « Traverser les frontières », aujourd'hui, chronique d'un assassinat. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion. La leçon inaugurale d'Amos Gitaï est publiée sous le titre « La caméra est une sorte de fétiche » filmée au Moyen-Orient chez Fayard. Suite à l'exposition à la Cinémathèque, je rappelle également le bel ouvrage collectif publié chez Gallimard en 2014, Amos Gitaï, architecte de la mémoire. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Coordination et présentation, Meryl Moneghetti. Un grand merci à Claude Lanneau, ainsi qu'à Anne-Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité pour leur contribution. Lundi, nous ne quittons pas une histoire complexe que les nationalismes pervertissent. Nouvelle série, en compagnie de l'historien Edem Eldem, nous reviendrons sur les relations entre l'Empire ottoman, la Turquie et l'Occident à partir des années 1820. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.